15 minutes, Katia Beach, Guillaume Rey.
Quelle reconversion possible après avoir exercé le travail du sexe ?
À Genève, une dizaine de femmes a participé récemment à un projet pilote de réorientation dans le domaine santé sociale.
Un projet initié par deux associations est présenté comme novateur à l'échelle nationale.
Cours théoriques, stages pratiques dans des EMS, leur formation a duré près de 2 ans, avec à la clé un diplôme AFP, attestation fédérale de formation professionnelle.
Si certaines participantes ont renoncé en cours de route, près de la moitié a réussi, et certaines ont depuis trouvé un emploi fixe.
Mais la plupart d'entre elles ont fait le choix de taire ce passé.
Alors a-t-on droit aux mêmes chances de reconversion quand on a exercé la prostitution ?
Dans la vieille ville de Genève, on se rend tout d'abord dans les locaux d'SOS Femmes.
Il est environ 10h ce matin-là. Dans son petit bureau très simple, Claudia Mascareñas accueille une des femmes qui a participé à ce projet.
C'est la seule qui a accepté de témoigner. Pour préserver son anonymat, on l'appellera Louisa. Elle a choisi de s'exprimer dans sa langue maternelle.
Je suis arrivée à Genève en 2012. J'ai travaillé comme prostituée. Je n'ai jamais aimé ce travail. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre possibilité et que je ne parlais pas la langue. Et c'est la seule opportunité que j'ai eue lorsque je suis arrivée en Suisse. Mais j'ai toujours voulu changer. Et puis j'ai rencontré l'association SOS Femmes qui m'a aidée pour trouver une nouvelle profession.
Désormais, Louisa travaille donc dans un EMS.
Ça me plaît beaucoup. Au début, je n'étais pas très sûre de moi, mais je me suis habituée, j'ai appris à aimer ça. Aujourd'hui, j'ai un très bon contact avec les personnes dont je m'occupe, avec lesquelles je partage ma journée, avec les personnes âgées. Et j'aime beaucoup pouvoir leur donner de l'attention et des soins.
Est-ce que votre passé de travailleuse du sexe, c'est quelque chose dont vous avez parlé avec certains de vos collègues peut-être, ou certains des résidents ?
Non, je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai parlé à personne, ni aux personnes âgées, ni à mes collègues. Ce n'est pas quelque chose dont je souhaite parler, ça reste dans le passé. Ça fait longtemps que ça s'est passé et je n'aime pas me souvenir de cette période-là.
Il n'y a pas eu de questions de la part de vos collègues sur votre passé ?
Non, il n'y en a pas eu. Et je n'ai jamais été reconnue, parce que quand je travaillais, j'étais dans la rue. Et j'avais peur d'être reconnue. Mais ça n'a jamais été le cas. Si on me posait une question sur mon passé, je dirais que j'étais indépendante, que je faisais des ménages ou que je travaillais comme nounou. C'est comme ça que j'en parle à ma famille.
Claudia Mascareñas, le fait de ne pas en parler, est-ce que c'est le cas de beaucoup de femmes qui viennent vous voir ?
Ici, à SOS Femmes, je dirais 90% des femmes qu'on reçoit ici veulent que ça reste dans le passé. Elles viennent vraiment pour recommencer une nouvelle page et puis avoir un boulot. Enfin, souvent, elles ont tendance à le dire comme tout le monde et être considérées comme tout le monde. Enfin, voilà, que ce soit pas un boulot stigmatisé par la société ou par toute personne. On sait aussi que la réalité d'aujourd'hui, une femme qui met travailleuse du sexe dans son CV, selon où elle va postuler, bah, ça va lui porter préjudice.
Avant ce projet pilote, c'était compliqué de se reconvertir quand on était travailleuse du sexe ?
En tout cas, c'était compliqué de se reconvertir dans le domaine santé et sociale, oui. C'est aussi, enfin, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément eu accès à des formations auparavant ou des diplômes. Et du coup, là, enfin, c'est un peu la grande nouveauté où il y a vraiment un diplôme à la clé.
Pour vous, Louisa, comment s'est passée cette formation ?
C'était un grand défi, notamment pour la langue. Et aussi parce que je n'avais pas d'expérience professionnelle auparavant. Nous avons reçu l'aide nécessaire, financière et psychologique, parce que c'était parfois difficile de terminer la formation. 2 ans, c'est très long. Pour moi, le plus dur, c'était la garde de mon fils. Quand j'ai commencé la formation, il avait 2 ans et demi. Mais à la fin, j'ai réussi, et ça en valait vraiment la peine, avec un diplôme, un emploi et un regard différent de la société.
Avec SOS Femmes, une autre association a contribué à ce projet pilote, l'Ortra Santé Sociale Genève, qui met notamment sur pied des formations.
Dominique Roulin est la directrice et pour ce programme, il a fallu se poser une question centrale, celle des compétences des travailleuses du sexe.
Bonjour, Dominique Roulin, enchantée. La prostitution en Suisse, ou le travail du sexe, est reconnu comme un métier. Et ça, ça fait tilt dans notre cerveau de formateur et de formatrice, c'est de dire, si c'est un métier, ça veut dire qu'il y a des compétences professionnelles. Et on s'est d'abord posé la question, est-ce qu'il y a des compétences professionnelles dans le travail du sexe qui pourraient être transposées dans le domaine des soins? Et on a fait une grande enquête et une grande recherche au niveau international, et c'est pas si facile que ça de dire qu'il y a des compétences qui peuvent se transférer. Donc après, on s'est dit, bon, si les compétences peuvent pas se transférer d'un domaine à l'autre, comme c'est un métier, finalement, qu'est-ce qu'on peut reconnaître pour ces femmes pour qu'elles puissent rentrer dans un parcours qualifiant? Et on s'est plutôt intéressé de dire que leur expérience dans leur parcours de vie, y compris le travail du sexe, était une expérience professionnelle que nous, Ortrain, on reconnaissait. Ça leur permettait d'entrer dans le programme de qualification et de pouvoir suivre la formation sur 2 ans. Elles étaient en emploi et elles ont pu avoir l'expérience directe de soins qui est nécessaire pour pouvoir se présenter au diplôme.
Ce programme est présenté comme novateur, en tout cas à l'échelle nationale. En quoi il est si novateur ?
Je ne connais pas d'expérience de ce type-là. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'il est novateur. Et aussi, c'est de se positionner autrement que dans la morale ou que dans un jugement sur un métier, mais plutôt dans l'idée de qu'est-ce qui, quand on a un métier, qu'est-ce qui est reconnu comme compétence pour exercer ce métier et qu'est-ce que ça vaut sur le marché du travail. C'est plus dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est novateur, je pense.
Est-ce qu'on fait de la réorientation professionnelle avec des travailleuses du sexe la même chose qu'avec tout un chacun ?
Je serais tentée de dire oui. La seule différence, c'est que la société pose un regard sur le travail du sexe qui est empreint d'un jugement moral ou de position personnelle. Et que donc, ce qui était important, c'était de protéger la confidentialité des personnes et de permettre qu'elles fassent leur travail et leur formation sans qu'on dise « Ah, mais c'est une prostituée, est-ce qu'elle est capable ?» ou « Si elle touche un corps, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, on a garanti la confidentialité. Notre politique, ça a été de dire « Dans chaque lieu, il y a une personne responsable qui sait ». On envoie des personnes qui ont ce passif-là pour s'il y a un problème.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Mais quel retour d'expérience du côté des employeurs qui ont accueilli ces femmes? Pour le savoir, on s'est rendu dans un des EMS qui a participé au projet. On a rendez-vous avec son directeur.
Ça, c'est notre petite salle de cafétéria qui sert aussi de salle pour goûter, faire des lotos, faire... des activités, des chants.
La vie d'un EMS, on savait.
La vie d'un EMS, voilà. Nous accueillons 50 résidents, hommes et femmes, des personnes dont la moyenne d'âge est autour de 83-86 ans.
Pour s'en occuper, l'établissement compte une 60aine de collaboratrices et collaborateurs. Et il a donc accueilli 4 femmes qui ont participé au projet.
La maison, elle a un petit peu la volonté aussi de proposer, d'accueillir des personnes qui ont un profil un petit peu différent des personnes ordinaires. Et je trouvais ce programme innovant, singulier et très pertinent pour des personnes qui, à un moment donné, peuvent avoir du mal aussi pour recouvrer une autre vie sociale et professionnelle. Et c'est pas parce qu'elles viennent du milieu en tant que travailleuses du sexe que pour autant elles doivent être stigmatisées. Donc le personnel en soi n'avait pas cette information. Moi, je l'avais pas. Enfin, je l'avais un petit peu, mais c'était pas non plus l'objet d'en faire la publicité ni le menu du jour dans les équipes. Et je crois que voilà, toute personne qui vient pour se former et apprendre doit être considérée dans cette optique-là et pas par rapport à son passé, quel qu'il soit.
Mais le suivi plus spécifique, c'est une formatrice de l'EMS qui s'en chargeait.
Alors, on va retrouver les fonds.
Vous avez côtoyé ces femmes pendant près de 2 ans. Quel bilan vous en tirez? Quel point positif? Quelles améliorations peut-être?
Alors les points positifs, c'est que c'est des gens comme nous et elles sont arrivées à leur AFP aussi bien que les pré-apprentis d'intégration par exemple. Je pense le point négatif, ça peut être la langue, parce qu'on s'occupe de résidents qui sont parfois avec des gros troubles cognitifs. Et si le résident ne les comprend pas bien, ça peut être compliqué autant pour le résident que pour le soignant.
Vous estimez, après les avoir vus évoluer, qu'il y a peut-être des compétences acquises par leur expérience de travailleuse du sexe qui ont pu être utiles?
Alors, j'imagine que la nudité, parce que nous on se retrouve avec des personnes âgées qui n'ont plus le même corps que des personnes jeunes. Et ça, je pense que c'était un acquis. Et le deuxième acquis, je pense que c'est l'empathie, parce que j'imagine aussi qu'elles sont souvent confrontées à des gens qui ont besoin de parler. Et il y a aussi, je pense, un côté maman, parce que c'était toutes des dames. Et ce côté maman, c'est aussi des choses qu'on reproduit. Et ça, c'était aussi des compétences qu'elles avaient déjà.
Vous pensez que ça aurait changé quelque chose pour le reste de vos collègues ou voir les familles des résidents, les résidents, de connaître cette situation, hein, leur passé de travailleuse du sexe?
Alors, oui et non. Je pense que pour des familles de résidents, oui, je pense que ça peut être compliqué. Après, pour moi, non. Et pour le personnel, je pense que ça peut être compliqué aussi. Après, il faut aussi qu'on apprenne à connaître la personne et pas que le métier qu'elle a fait.
Donc voilà, là, on est dans le quartier des Paquis.
Les Paquis, c'est là que se concentre une bonne partie de l'activité du travail du sexe à Genève.
Là, on voit également des filles sur les terrasses et sur le bord des trottoirs avec des talons très hauts. On a pas mal de bars.
Dans ce quartier souvent animé, on retrouve Pénélope Jacardi, coordinatrice de l'association Aspasie, qui défend les droits des personnes qui exercent le travail du sexe.
On arrive à estimer le nombre de travailleuses du sexe qu'il y a à Genève ?
Travailleurs, travailleuses d'ailleurs, parce qu'il y a aussi évidemment des hommes qui travaillent. Non, c'est assez compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est plusieurs centaines. Je pense qu'on peut aussi arriver à un millier, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de mobilité. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent quelque temps, qui repartent. Donc c'est vrai que c'est très difficile de donner un chiffre qui soit exact.
Alors dans le cadre de ce reportage, on s'est intéressé à des travailleuses du sexe qui ont fait le choix de la reconversion. Dans un quartier ici comme les Paquis, les filles qui travaillent dans la rue, dans des bars, dans des salons, pensez qu'elles ont en tête de trouver un autre emploi ?
Oui et non, il y en a qui ont envie de trouver un autre emploi et d'autres pas du tout. Il y a des tas de travailleurs du sexe qui exercent cette activité, qui leur convient, que c'est ce dans quoi elles sont bien. Et donc parfois, alors il peut y avoir des problèmes dans les conditions dans lesquelles elles vont travailler, mais c'est pas l'activité en elle-même qui leur pose problème. Donc elles sont tout à fait bien dans cette activité-là. Et d'autres personnes qui peuvent chercher une activité, soit une activité en complément pour avoir aussi un salaire qui est garanti. Et puis il y a d'autres personnes qui cherchent une activité professionnelle autre et qui ont beaucoup de mal pour des tas de raisons. Et donc du coup, il y a des gens que ça peut intéresser, tout à fait.
Est-ce que les femmes qui entreprennent ce projet de reconversion, est-ce qu'elles ont conscience des compétences acquises dans le cadre de leur activité ?
Ça, c'est des questions qui sont effectivement compliquées parce que parfois le stigmate est tellement fort qu'elles-mêmes ont intériorisé certains des éléments de ce stigmate et dévalorisent leur activité. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, on est encore dans des questions très compliquées pour reconnaître le travail du sexe comme une activité et surtout pour accorder tout notre respect aux travailleurs et travailleuses du sexe.
Alors ce stigmate pourra-t-il s'effacer avec le temps ?
Dans les locaux de SOS Femmes, Claudia Mascarignas est consciente du chemin encore à faire.
Il y a déjà une grande avancée où le travail du sexe est reconnu déjà dans l'expérience professionnelle. Et ensuite, c'est de petit à petit, avec ces projets-là, avancer sur la déstigmatisation du travail du sexe et puis donner accès à plus de choix de formation aux femmes qu'on suit ici.
Pour vous, Louisa, quelles sont vos envies, quels sont vos rêves pour la suite ?
J'espère pouvoir continuer. Pourquoi pas me former encore dans le futur ? Mais là, je vais faire une pause, car les 2 ans de formation ont été intenses. Je suis très fière d'avoir un emploi stable.
Pour vous, la page du travail et du sexe est définitivement tournée ?
Oui, oui. Je laisse ce passé derrière. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie.
« 15 minutes », c'est un podcast RTS réalisé cette semaine par Alexandre Davoine, merci à lui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, on vous proposera un nouveau reportage tous les vendredis. Et puis une adresse pour nous écrire, 15minutes@rts.ch. À la semaine prochaine.